L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
Das Kapital, il ne dit pas Der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Alors ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Jean-Marie Schaeffer, que je remercie très sincèrement et profondément d'avoir accepté notre invitation. Nous avions déjà eu le plaisir de le recevoir dans un autre cadre l'année dernière. Il était venu présenter son dernier livre, La fin de l'exception humaine, dans le cadre de l'Agora des savoirs. Et je laisse tout de suite la parole à celui qui a très amicalement accepté de le présenter, Olivier Tinlan, qui est maître de conférence à Montpellier 3. Bonne soirée.
Bonsoir à tous. Merci encore d'être venus si nombreux pour écouter Jean-Marie Schaeffer, qui nous fait l'amabilité et l'honneur de venir nous rendre visite dans cette première année de l'Agora des Savoirs. Alors, c'est évidemment un immense plaisir pour moi et pour nous d'accueillir Jean-Marie Schaeffer dans ce cycle de conférences. Jean-Marie Schaeffer est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales ainsi qu'au CNRS. Et depuis au moins les deux dernières décennies, il s'est imposé comme l'un des théoriciens majeurs dans le domaine de la philosophie de l'art et de l'esthétique philosophique. Alors pour aller vite, son domaine d'études de prédilection consiste pour l'essentiel à penser quelque chose comme la relation esthétique. Qu'est-ce que c'est que la relation esthétique? Qu'est-ce qui se passe quand nous nous rapportons soit à une œuvre d'art, soit à autre chose d'ailleurs, de manière esthétique? Alors pour comprendre la nature de ce qui se passe quand nous nous rapportons esthétiquement à quelque chose, Jean-Marie Schaeffer a déployé tout un ensemble d'outils conséquents qui lui ont permis de circonscrire la nature de cette relation, mais aussi de dissiper autant que faire se peut un certain nombre de préjugés, de mythes relatifs à l'esthétique et au domaine de l'art en particulier. On lui doit notamment une étude remarquable, une étude généalogique qui porte justement sur ce qu'il a appelé la tradition spéculative de l'art, conception qui, depuis le romantisme allemand de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à Heidegger, en passant par des figures comme celle de Hegel, de Schopenhauer, de Nietzsche, a tendu à investir l'art d'une signification absolue. Dans notre rapport à l'œuvre d'art, il se passerait quelque chose, finalement, de l'ordre du sacré, de l'ordre de la révélation d'une vérité supérieure au domaine des affaires humaines, supérieure même parfois au discours humain, voire au discours philosophique lui-même. Alors ça, c'était l'ouvrage, l'objet notamment de ce grand ouvrage qui a constitué l'art de l'âge moderne. Dans cet ouvrage, Jean-Marie Schaeffer s'est attaché précisément à déconstruire ce mythe, ce surinvestissement d'un domaine qui est l'art, art qui serait justement censé incarner un accès privilégié à quelque chose comme une vérité absolue qui nous dépasse. Alors précisément, tout l'enjeu de la démarche de Jean-Marie Schaeffer, c'est de redescendre sur terre, pour ainsi dire, d'avoir un rapport plus humble, plus concret aussi, plus attentif à la pluralité des expériences esthétiques. Et l'un des mérites de son œuvre est notamment de nous permettre de décentrer notre regard, de voir ce qui se passe dans les autres traditions, dans la tradition notamment japonaise qu'il affectionne, pour voir justement, pour jeter un soupçon sur l'évidence, ou ce qui paraît tel, dans l'expérience esthétique, dans notre façon de nous rapporter à l'œuvre d'art ou à d'autres choses sur le mode esthétique. Alors cette approche donc amorcée dans l'art de l'âge de l'art moderne, pardon, ou l'art de l'âge moderne, je m'y perds, a été poursuivie ensuite dans une œuvre passionnante intitulée « Les célibataires de l'art », dans laquelle Jean-Marie Schaeffer a entrepris cette fois-ci d'investiguer ce qui se passait justement après, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XXe siècle, et là encore en essayant de dissiper les mythes qui entouraient non plus l'œuvre d'art en tant que telle, mais la relation esthétique elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'une relation est esthétique? Est-ce que les propriétés esthétiques de cette relation sont inhérentes à l'œuvre que nous percevons, ou est-ce qu'elles sont à chercher ailleurs? Et tout l'effort de Jean-Marie Schaeffer a été précisément d'investiguer cet ailleurs et de nous apprendre à justement à regarder autrement notre conduite esthétique quand nous investissons justement une forme de plaisir particulier dans la relation à un objet. Cette étude s'est prolongée notamment dans l'adieu à l'esthétique, qui est sans doute la porte d'entrée la plus simple dans l'univers de Jean-Marie Schaeffer, dans lequel justement, le titre est éloquent, il s'agit de changer notre regard sur l'esthétique et d'être de nouveau attentif à une expérience concrète et de se défaire par là même justement des investissements spéculatifs, philosophiques, parfois excessifs, parfois plus obscurs qu'éclairants, qui entourent le monde de l'art et la conduite esthétique. Alors la démarche de Jean-Marie Schaeffer s'est aussi déployée sur un mode anthropologique. On lui doit notamment une étude sur la disposition à la production de fiction, pourquoi la fiction, où Jean-Marie Schaeffer s'interroge justement sur le rôle de la fiction dans la conduite humaine. On lui doit également plus récemment une étude absolument remarquable sur la thèse de l'exception humaine, pour reprendre le titre de l'ouvrage, ouvrage dans lequel Jean-Marie Schaeffer finalement fait une sorte de détour théorique, s'éloigne un petit peu de sa sphère d'études privilégiée, celle de l'art et de l'esthétique, pour se demander finalement si au-delà justement d'une image excessivement métaphysique, on pourrait dire, de l'art, il n'y a pas à court-circuiter, à démanteler, à remettre en question une conception métaphysique excessive, excessivement exceptionniste, excessivement ségrégationniste de l'homme par rapport au reste de la nature. Et donc dans cette œuvre, Jean-Marie Schaeffer s'en prend donc à cette conception selon laquelle l'être humain pourrait s'excepter du reste de la nature et se penser comme un être qui a vocation à déployer des facultés irréductibles et un univers de valeurs, de connaissances, etc., parfaitement irréductible à ce qui au reste de la nature. Nous en sommes là, et donc ce soir, Jean-Marie Schaeffer nous fait l'amabilité de revenir à son terrain de prédilection, à savoir l'art, et va donc nous parler de l'art entendu comme utopie de la modernité. Il est temps pour moi de lui laisser la parole.
Merci beaucoup. Donc, je remercie d'abord l'Agora des Savoirs, et puis merci beaucoup Olivier pour cette introduction qui me mettrait mal à l'aise. Et qui me fait surtout remarquer que je suis devenu vieux. Et donc, il est temps de revenir à ce qui finalement est un travail qui remonte à plus de 20 ans. Et peut-être pourrais-je l'aborder un peu autrement en tenant compte de l'âge, mais aussi peut-être quelque chose que j'ai pu apprendre entre-temps. Donc, c'est intitulé « L'art comme utopie de la modernité ». Et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Je vais commencer par quelques citations. Voici par exemple ce que le critique anglais Matthew Arnold écrit dans The Study of Poetry vers la fin du 19e siècle. Donc je cite, « L'humanité découvrira chaque jour davantage que nous devons nous tourner vers la poésie afin qu'elle interprète la vie pour nous et que nous y trouvions consolation et soutien. Sans la poésie, notre science sera incomplète et la plupart des choses qui de nos jours passent pour de la religion ou de la philosophie, seront remplacés par la poésie. Notre religion, notre philosophie, que sont-elles sinon l'ombre, le rêve et l'illusion de la connaissance réelle ? » Fin de citation.
Voici Kandinsky, le grand peintre, dans du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Je le cite. Quand le nouveau réalisme connaîtra son épanouissement et donnera ses fruits, alors peut-être résonnera un accord qui sera une nouvelle révélation céleste. Ou encore, le grand musicien Arnold Schoenberg, à propos de la musique, il n'existe en fin de compte qu'un seul contenu, celui que tous les grands maîtres se sont attachés à exprimer, l'ardente aspiration de l'humanité vers son ultime incarnation, vers la vie immortelle de son âme, son absorption dans l'univers, l'accession de son âme vers Dieu. Je pourrais multiplier les citations en remontant plus haut dans le temps, jusqu'au début du 19e ou la fin du 18e, notamment chez les penseurs romantiques. J'aurais pu aussi descendre un peu, se rapprocher davantage de notre époque, par exemple jusque dans les années 50 du 20e siècle. Innombrables, en fait, sont les textes qui expriment cette conviction. L'art dépasse en dignité toutes les autres activités humaines et il nous donne accès à une réalité qui est supérieure à celle dans laquelle nous vivons. Et d'une certaine manière, il constitue l'horizon ultime du destin historique de l'humanité. Dans cette fonction, l'art est appelé à remplacer la révélation religieuse et la métaphysique et les sciences pour amener l'humanité à se dépasser elle-même, à sortir en quelque sorte de l'histoire et de la finitude pour accéder à une plénitude d'être qui lui est interdite ailleurs. Comment comprendre cette vision exaltée de l'art qui est peut-être encore en partie la nôtre, ou en tout cas qui a été la nôtre pendant presque deux siècles? Il faut d'abord noter, je crois, que ce que nous appelons art au singulier ou art au pluriel a de tout temps et dans toutes les cultures humaines été ce qu'on appelle une activité marquée, autrement dit une activité qui fait saillie, qui est visible parmi les manières de faire des hommes et qui est identifiée comme telle dans toutes les sociétés. Cette éminence de l'art est liée la plupart du temps au fait que dans presque toutes les cultures, il est un des moyens qui est mis en œuvre dans la relation que les hommes entretiennent avec le sacré. Les activités artistiques et les œuvres sont très souvent des intermédiaires entre les hommes et ce qui les dépasse, ce qu'ils pensent les dépasser. Et c'est essentiellement à cause de l'importance qu'ils accordent à ce lien avec une réalité qu'ils posent comme autre et les dépassant que celle dans laquelle ils vivent, que les œuvres sont valorisées à leur tour comme étant quelque chose de spécial. Alors la question de savoir pourquoi l'humanité, dans les cultures les plus diverses, a développé de tels objets intermédiaires est une question très difficile. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse actuellement donner une réponse assurée ou qui tienne la route. Mais le fait en lui-même est incontestable. Donc on peut dire que d'une certaine manière, les affirmations des penseurs et artistes du 19e et du 20e siècle que je viens de citer ne sont pas étonnantes. Et pourtant, même si cette conception moderne de l'art a une sorte de soubassement, peut se poser sur un sol de nature anthropologique, donc qui se retrouve dans des cultures très diverses, la vision de l'art que la modernité développe accorde un statut à l'art qu'il n'a jamais eu auparavant. Car selon la conception moderne de l'art, il n'est plus au service de quelque chose d'autre, par exemple de la religion, la révélation religieuse ou autre chose. Il possède lui-même une dimension sacrée et c'est en cela que la conception moderne de l'art se distingue de toutes les autres conceptions qu'on pouvait connaître en Occident ou ailleurs. Comment peut-on comprendre cela? Je partirai d'un constat qui est que l'époque qui a entretenu cette vision de l'art est aussi celle qui a développé les grandes utopies politiques. Autant de vision du monde ou d'idéologie, peu importe le terme, qui nourrissent l'idée d'une maîtrise absolue de l'homme sur lui-même, sur son destin individuel et surtout collectif, lié aussi au projet d'un dépassement, là encore, de toutes les marques de la finitude. Ces utopies politiques sont par ailleurs sans doute parmi les visions du monde les plus sanglantes que l'humanité ait connues à ce jour, sous la forme du communisme et du nazisme. De manière générale, si on regarde l'époque qui a connu cette vision exaltée de l'art, c'est sans doute une époque d'une violence extrême. Depuis le colonialisme et l'impérialisme occidental, ensuite la Première Guerre mondiale qui a été une boucherie au-delà de toutes les boucheries qu'on n'avait jamais vues jusqu'à cette date-là, et enfin les totalitarismes qui ont abouti à des exterminations de masse dans lesquelles l'humanité a perdu jusqu'à sa figure même. Il faut bien voir que c'est dans ce cadre historique d'une culture spécifique, la nôtre, que s'est développée cette utopie de l'art. Et cette utopie a formé tantôt, pour beaucoup d'individus, je pense, un rempart contre cette réalité. Parfois aussi, il faut le dire, elle a apporté elle-même sa propre contribution à cette réalité, comme ce fut le cas de certains errements des avant-gardes. Dans tous les cas, ces enjeux et ces tribulations ne sauraient être séparés de cette forme de vie historique, de ses espoirs, de ses craintes, de ses illusions et de ses cauchemars. Pour comprendre ce qui se joue dans cette conception de l'art, peut-être qu'il n'est pas inutile d'essayer d'abord de circonscrire un peu ses traits les plus généraux. Ensuite, en un deuxième moment, je vais essayer de me pencher sur le moment de naissance de cette conception. Quand elle est née, quel était le contexte dans lequel elle a vu le jour ? Après tout, c'est quand même assez étrange qu'une activité humaine se voit dotée d'une fonction dans laquelle elle est appelée à remplacer ce qui, dans toutes les cultures, réalise le rapport au sacré, à savoir la religion, par exemple. Donc, comment est-ce qu'une telle vision peut naître et comment est-ce qu'elle est née, en fait ? Et puis, il me semble que cette naissance elle-même, ce moment historique lui-même, s'inscrit dans une longue histoire. Et pour vraiment comprendre ce qui est en jeu dans cette façon que nous avions ou que nous avons encore de considérer l'art, eh bien, il faut plonger un peu dans l'histoire de longue durée de la culture occidentale. En effet, l'anthropologie, la vision de l'homme dans la pensée moderne de l'art est une des incarnations, ne naît pas au moment où naît cette pensée. Elle plonge ses racines au plus profond de notre histoire. Donc je vais commencer par essayer de décrire un peu quels sont les traits essentiels de cette façon de concevoir l'art, et vous allez y reconnaître beaucoup de traits qui sont en fait encore les nôtres, ceux par lesquels nous identifions la valeur que l'art a pour nous. Le premier point, c'est la sacralisation de l'activité artistique elle-même, ou de l'art ou des œuvres d'art eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est l'idée que l'art, contrairement à nos autres rapport avec la réalité, ne nous met pas en contact avec de simples faits dans le monde, mais nous donne accès à une réalité autre. Jean Paulhan pouvait ainsi dire il parlait du cubisme, que le cubisme possédait tous les traits d'un réveil religieux. Et il ajoutait, et c'est là un point important, que c'était l'opération même du peintre qui était divine. Je le cite, « Le sacré ne lui est plus fourni du dehors, il ne lui arrive plus tout fait, c'est lui qui doit le reformer de toute pièce, ou qui sait le laisser passer. » Donc on voit bien que c'est l'art lui-même qui devient le lieu d'une sacralité propre. Et Arnold Schoenberg, que j'ai déjà cité, assurait de son côté que la musique dispense, je le cite, un message prophétique. Et dans les alentours de Schoenberg, donc au début du XXe siècle, dans l'almanach du Cavalier Bleu, on pouvait lire sous la plume, donc une revue d'avant-garde, on pouvait lire sous la plume de Leonid Sabaneyev que l'idée artistique, je le cite, permet d'accéder à une certaine expérience extatique, l'extase, l'intuition des dessins supérieurs de la nature. Et le grand peintre Paul Klee dira un peu plus tard que l'œuvre d'art atteint ce qu'il appelait les réalités dernières. On sait que historiquement, cette conception extatique vient directement du romantisme, essentiellement du romantisme allemand. Comme en témoigne le fait d'ailleurs que Paul Klee reprend explicitement la théorie romantique du symbole artistique lorsqu'il dit « L'art est à l'image de la création, c'est un symbole, tout comme le monde terrestre est un symbole du cosmos. » Et je reviendrai plus tard à ce moment de naissance donc dans le romantisme. Un deuxième trait que nous connaissons en fait très bien si nous nous intéressons un peu à la vie de l'art, c'est l'idée que l'artiste est un être souverain. C'est-à-dire l'idée de l'art moderne est en général liée à celle de cette souveraineté de l'artiste.
C'est-à-dire qu'on reconnaît à l'artiste la capacité de faire advenir l'œuvre par une décision absolument libre et autonome. Toujours dans l'almanach du Cavalier Bleu, Thomas von Hartmann, donc début du XXe siècle, déclare que le but des compositeurs, il parle de la musique, est d'exprimer leur moi artistique et que ce faisant, je le cite, ils ne connaissent pas de limites extérieures et n'obéissent qu'à leur voix intérieure. Et là encore, Paul Klee a exprimé, sans doute avec plus de force, cette idée du faire artistique souverain, de l'acte absolument souverain. Selon lui, l'acte créateur est absolument libre de toute prédétermination. Il s'agit donc d'un acte originaire au sens religieux ou théologique du terme. Je cite Klee, selon le principe que l'œuvre se rapporte à sa loi inhérente comme la création au créateur, l'œuvre croit à sa façon propre à partir de lois générales universelles. Elle n'est pas la règle elle-même, elle n'est pas l'universel d'avance. L'œuvre n'est pas la loi, elle est au-dessus de la loi. Ou, comme il le dit à propos de Franz Marc dans un très beau texte décrit après la disparition tragique de son ami peintre, il note « L'artiste véritable occupe un point originel de création, où les possibilités artistiques sont illimitées. Point originel qu'il appelle encore le point gris et qui correspond, dit-il, au lieu de la cosmogenèse, donc le lieu où le cosmos, l'univers lui-même naît. Donc il naît à travers la création artistique. Cela signifie que cette souveraineté du sujet artiste n'est pas synonyme d'arbitraire ou de subjectivisme au sens courant du terme, mais au contraire exprime une nécessité intérieure. Et c'est cela qui explique comment, dans notre conception de l'art, nous pouvons à la fois, mettre l'accent sur la singularité absolue du geste artistique et en même temps insister sur son universalité. Il est à la fois ce qu'il y a de plus singulier et en même temps ce qu'il y a de plus universel. Et cela est possible parce que l'artiste, en lui, dans sa figure, réunit ces deux extrêmes qui, en dehors de cette figure, sont toujours séparés. Un troisième aspect, et qui est en quelque sorte un présupposé, c'est que si l'art doit remplir cette fonction, cela présuppose une conception polémique de la réalité commune, celle dans laquelle nous vivons tous. Et on sait bien que l'idée moderne de l'art est indissociable d'une critique de la réalité commune. Cette idée selon laquelle il y aurait une tension, voire une incompatibilité entre d'un côté la vie que nous menons tous les jours, la vie sociale, et de l'autre le mode d'existence visé ou exigé par la création artistique, est tellement ancrée dans nos façons de voir l'art que nous avons tendance à oublier qu'elle est fort récente. Et elle est tellement familière qu'un art qui célébrerait la vie comme elle va, comme on dit, se disqualifierait automatiquement. Parce que nous partons de l'idée que la vie, comme elle va, est en fait une vie aliénée, déchue, non conforme à ce qu'elle devrait être. Autrement dit, il y a deux versants, deux côtés de la monnaie. D'un côté, une activité qui est évaluée au-delà de toutes les autres activités humaines, mais cette surélévation n'a de sens que parce que la réalité commune est, elle, systématiquement considérée comme défaillante, comme aliénée, comme non conforme à ce qu'elle pourrait être et à ce qu'elle devrait être. Et cette thèse d'une force à la fois critique et autocritique qui serait inhérente à l'art moderne se retrouve jusqu'à aujourd'hui, alors même que cette conception religieuse de l'art est pour partie déjà une chose du passé. Un quatrième point, c'est que l'artiste, non seulement dispose d'une liberté souveraine, mais il a une fonction très particulière qui est celle d'un médiateur. Il est un passeur, en quelque sorte, entre ces deux réalités. D'où le credo général que le public peut et doit suivre l'artiste qui lui indique la voie vers le salut. que ce salut soit défini en termes politiques, comme c'était le cas pour les avant-gardes artistiques liées à la politique, ou comme un salut plutôt existentiel, individuel. Cette face de la modernité permet comprendre l'importance des mouvements des avant-gardes. Et là encore, nous avons tellement l'habitude de concevoir que l'art moderne a développé des avant-gardes que l'idée même de « mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'une forme d'activité humaine est une fonction d'avant-garde par rapport à autre chose » ne nous frappe même pas. Mais c'est un élément essentiel de cette conception, donc que l'artiste a pour fonction de montrer la voie au reste des humains. Enfin, un dernier point, cette conception de l'art présuppose une conception, alors c'est un terme technique, mais je vais l'expliquer tout de suite, enfin, il est tout simple, en fait, c'est une conception historiciste de l'évolution de l'art et plus largement du temps collectif de l'humanité. Alors, l'historicisme est une théorie qui est née au XIXe siècle, qui est historiquement liée à la philosophie allemande, mais qui s'est étendue loin au-delà, et elle consiste en la conjonction de deux idées, là, ou de deux thèses. La première thèse, c'est que l'histoire est déterminée. Autrement dit, que l'histoire n'est pas un ensemble d'événements contingents et de causes qui se surajoutent les unes aux autres, mais qu'elle obéit à des lois. Qu'il y a des lois de l'histoire comme il y a des lois de la nature, et que ces lois, on peut les connaître, et surtout, on ne peut pas y échapper, parce que ce sont des lois. Et ces lois sont l'expression d'une causalité qui est située au-delà des interactions concrètes entre les hommes et les groupes humains. Autrement dit, nos interactions, ici ce soir ou ailleurs, sont régies par des lois qui sont autre chose que la somme de nos interactions. Donc, l'histoire ne se borne pas aux interactions multiples, presque infinies, que les êtres humains individuels entretiennent les uns avec les autres, les institutions que les êtres humains construisent, etc. Non, il y a une deuxième couche de réalité au-dessus, cette couche-là, c'est la couche profonde, et cette couche est régie par des lois. Et donc, le premier aspect de cette conception historiciste, c'est que l'histoire a une évolution parce qu'elle a des lois. Le deuxième aspect, c'est que cette évolution, elle est orientée. Autrement dit, il y a une conception qu'on appelle finaliste. Il y a un but à l'histoire. Et ce but, en fait, lorsqu'il sera atteint, il correspondra à la fin de l'histoire. Donc c'est une conception non seulement selon laquelle l'histoire suit des lois, mais aussi une conception selon laquelle l'histoire n'est pas un mouvement ouvert, mais quelque chose qui va vers sa fin. Cette fin peut être une fin positive, une utopie dans laquelle l'humanité enfin coïncidera avec elle-même et n'aura plus besoin d'histoire, n'aura plus besoin d'évoluer puisqu'elle aura atteint sa propre plénitude, ou au contraire une vision pessimiste dans laquelle l'humanité va à sa perte, et sous cette forme aussi, évidemment, l'histoire trouvera sa fin. Donc l'historicisme a un aspect eschatologique, c'est-à-dire il est lié à une théorie de la fin du monde. Il y a une fin de l'histoire comme il y a une fin du monde. Donc, une telle conception de l'histoire est liée à l'idée d'une clôture absolue. Donc, non pas de quelque chose qui est ouvert et qui peut aller plus loin, mais qui est appelé à se terminer et à trouver un moment de clôture sur elle-même. Cette idée que l'évolution historique obéit à des lois et que l'art moderne correspond à une nécessité qui est inscrite organiquement dans l'histoire de l'art se retrouve chez d'innombrables auteurs. Franz Marc, celui à qui Klee avait consacré un beau texte, note « Rien n'est dû au hasard, rien n'est provoqué sans raison organique ». Et il dit sa conviction que l'histoire, et il pense essentiellement à l'histoire de l'art, se trouve au tournant de deux longues époques. Celle qui finit a été l'époque de la perte du sens artistique du style, mais une époque nouvelle s'annonce, comme, je le cite, une religion nouvelle qui n'a pas encore trouvé une voie et que personne n'a reconnue. Kandinsky, de son côté, donc sur la question de la forme, dit « L'apparition des formes, donc des formes artistiques, dans le temps et l'espace, doit s'expliquer par la nécessité intérieure qui régit tel temps et tel espace. C'est pourquoi il sera finalement possible de dégager les caractères distinctifs d'une époque et d'un peuple donné et d'en établir la liste schématique. D'où son idée qu'il y a des heures décisives. Il dit « Les nécessités arrivent à maturité quand leur heure est venue. » Autrement dit, l'esprit créateur, que l'on peut nommer l'esprit abstrait, trouve alors accès à l'âme, puis aux âmes au pluriel, et provoque une aspiration, un élan intérieur. Cette tyrannie du temps, la nécessité d'être à l'heure, ni trop tôt, ni trop tard, est un des traits les plus constants de la conception moderne de l'art et une des questions les plus souvent débattues et thématisées. Ces éléments, ces cinq éléments que j'ai bien délimité, ne sauraient évidemment expliquer les voies de la création moderne. Aucune œuvre d'art de l'époque moderne ne saurait être comprise comme étant leur traduction. Il ne s'agit même pas d'une théorie au sens fort du terme qui définirait le modernisme. Personne n'a sans doute jamais adhéré conjointement à l'ensemble des traits que je viens d'isoler. Il s'agit plutôt d'idées qui se sont trouvées être particulièrement adaptées à un ensemble de croyances, de craintes et de désirs, et qui, de ce fait, ont profité d'un avantage relatif sur d'autres idées développées au même moment dans et hors le monde de l'art, un avantage qui leur a permis de se constituer en une vision du monde dominante. Il s'agit en somme d'une nébuleuse d'actes de foi, de convictions, de guides programmatiques, de critères critiques, etc., qui, sous des formes chaque fois différentes, se sont combinées et recombinées durant plusieurs générations, au point de se cristalliser en une manière stable de se tenir face à la vie et face à l'art. Une manière qui a modelé les représentations de nombreuses générations de penseurs, d'artistes, de critiques et d'amateurs. D'où ma deuxième question, quand et comment cette vision a-t-elle vu le jour? Or, on connaît la date de naissance, on peut même la fixer de manière assez exacte. Il s'agit de la pensée romantique et idéaliste allemande qui a été développée à la toute fin du XVIIIe siècle par de très jeunes gens portant les noms de Friedrich Schlegel, Novalis, Solga, Schelling, Hegel, deux grands philosophes, Hölderlin et quelques autres, qui tous en fait se sont posés la même question. Qu'en est-il de l'accès de l'homme à l'être, au fondement de l'être et à sa propre nature profonde, à partir du moment où la théologie dogmatique et la métaphysique ne peuvent plus répondre aux questions ultimes, et alors même que l'humanité, comme en témoigne la Révolution française qui est en train de se dérouler au même moment, au même moment où l'humanité semble s'être décidée à mettre les voiles vers un avenir totalement ouvert et dépourvu de toute voie tracée d'avance. Il est difficile à vue à partir d'aujourd'hui de mesurer l'angoisse proprement existentielle et métaphysique qui était derrière ces interrogations. Kant, donc le philosophe de Königsberg, venait, d'après ces jeunes gens, venait de détruire définitivement la légitimité de toute théologie positive, donc de ce qui avait tenu lieu d'architecture aux croyances les plus fondamentales de l'Occident pendant presque deux millénaires. Donc, il venait de détruire définitivement la légitimité de cette théologie, mais aussi de toute métaphysique théorique, donc de toute philosophie métaphysique. Donc, les deux voies royales à travers lesquelles l'Occident avait aménagé son rapport à l'absolu et à la transcendance, et donc les deux voies à travers lesquelles il avait essayé d'apprivoiser l'angoisse de la mort et du néant. Comment penser, comment vivre ces rapports désormais, dès lors que les romantiques étaient d'accord avec Kant, ni la théologie, ni la philosophie ne pouvaient plus remplir ce rôle. Et la réponse qu'ils ont apportée, et qui a eu des répercussions énormes sur le développement de l'art occidental, a été de dire, eh bien, ce que la théologie ne peut plus nous apporter, ni la philosophie, l'art peut nous le donner. Et l'art peut nous le donner pour une raison toute simple. Ces réalités sur lesquelles nous sommes fondés, qui nous tiennent debout d'une certaine manière, ce sont des réalités qui nous dépassent et donc auxquelles, par définition, nous n'avons pas d'accès direct. Nous ne pouvons pas les toucher directement, nous ne pouvons pas les penser abstraitement, parce qu'elles nous dépassent. Mais en revanche, nous pouvons nous rapporter à eux de manière indirecte, à travers des symboles. Donc nous ne pouvons pas dire ces réalités, mais nous pouvons contempler, voire même vivre indirectement, à travers des présentations symboliques qui en sont comme des exemples, des incarnations plutôt. Or, telle est précisément la manière dont l'art procède, toujours d'après eux. L'art nous met en rapport avec les vérités les plus ultimes, avec les fondements les plus profonds de notre être, mais il le fait non pas directement, mais à travers le voile de la présentation artistique, à travers des images, à travers des formes sonores, à travers des récits, à travers la musicalité de la parole poétique. De ce fait, parce qu'il peut montrer indirectement ce qu'on ne peut pas dire directement, il est appelé à prendre la place de la métaphysique, mais aussi de la théologie. Il est évident que si l'art peut remplir cette fonction-là, alors il ne saurait plus être considéré comme une activité humaine parmi d'autres, même une activité à laquelle on accorde une valeur plus grande qu'aux autres. Si le seul rapport à notre propre fondement, à notre être, qui soit possible et celui qui se réalise à travers l'art, et nous, si nous ne saurions être authentiquement humains qu'en tant que nous ne perdons pas le contact avec ce qui nous fonde et ce qui nous porte, alors l'art n'est pas simplement un moyen, mais il est l'avenir même de l'humanité. Donc l'utopie de l'art devient donc une utopie du destin historique de l'humanité. Et on voit peut-être que cette utopie a peut-être une composante compensatoire. Parce que c'est uniquement parce que les romantiques adhèrent, et les successeurs adhèrent à l'idée que l'homme ne saurait vivre comme homme authentique que pour autant qu'il n'accepte pas son destin de simple mortel, qu'on a besoin d'un tel moyen pour que nous puissions nous rapporter à la transcendance. Donc c'est parce que nous pensons que nous ne pouvons pas vivre autrement qu'en posant un absolu que nous avons besoin de l'art à partir du moment où ni la religion ni la métaphysique ne peuvent assurer ce lien. Donc on voit qu'à travers l'art, en fait, ce qui est en jeu, c'est l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, de notre existence, de notre place sur Terre et plus généralement de notre place dans l'être, dans l'ensemble des formes de ce qui est. Donc ce qui est en jeu, c'est une forme, une figure de l'humanité, une anthropologie, une façon de voir l'être humain. Mais quelle est cette façon de concevoir l'homme? Quelle est cette théorie de l'homme dont la conception moderne de l'art est une des figures? Et ce sera ma dernière question que j'aborderai. Je crois que pour réellement comprendre que ce qui est en jeu à travers l'art, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond dans notre tradition culturelle, il faut replacer non seulement la conception moderne de l'art, mais aussi la conception romantique, donc toute cette histoire de deux siècles, dans la longue durée de la culture occidentale. En effet, je l'ai dit, le fondement de la conception moderne de l'art n'est pas lui-même moderne. Il est beaucoup plus ancien, parce qu'il s'agit en fait de l'anthropologie chrétienne. En fait, la conception moderne de l'art est une des figures de cette anthropologie. Marcel Gauchet a montré, il me semble, de manière convaincante que la particularité de la religion chrétienne est que c'est en quelque sorte la religion de la sortie de la religion, c'est-à-dire qu'elle tend vers la sécularisation. Donc elle comporte comme son propre horizon la sortie hors d'elle-même. Et la théorie moderne de l'art n'est finalement qu'une des figures, elle n'est pas la seule, mais une des figures sans doute les plus fascinantes de cette sortie de la religion chrétienne hors d'elle-même. Et c'est ça qui s'est joué au moment de ce qu'on appelait la révolution romantique. Alors, pour le comprendre, je vais vous rappeler des choses que vous connaissez certainement mieux que moi. Cette anthropologie, elle est irriguée par deux sources. D'une part, le monothéisme créationniste, donc il y a un dieu créateur et un dieu unique, et il est créateur. Et en deuxième lieu, la pensée de l'incarnation, c'est-à-dire le Christ. Ces deux sources pensent l'homme en fait à travers une même problématique, qui est celle qui, d'un côté, on a un modèle divin, et de l'autre côté, on a une image finie de ce modèle, et cette image finie de Dieu, c'est l'homme. Donc l'homme est toujours pris dans une problématique où il doit se poser la question de sa conformité ou de sa dissemblance par rapport à ce modèle. Donc la question de la plénitude, du manque, etc. Et la réponse qu'il peut se donner à cette question qu'il se pose lui-même dépend de la distance à laquelle il se tient de ce modèle divin, qui est à la fois la source de son être, puisqu'il l'a créé, et la finalité de son existence, puisqu'il est appelé à se résorber en lui après sa mort. Nous savons tous que ce qui est au centre du créationnisme chrétien, c'est l'idée que Dieu a créé l'homme à son image. Autrement dit, l'homme n'est pas simplement, comme toute créature, un signe de la puissance créatrice absolue de Dieu, mais lui, il est en plus l'image de ce Dieu, puisqu'il est fait à sa ressemblance. Cette relation d'image, de ressemblance, c'est compliqué. Elle a été compliquée par la chute, puisque la chute a introduit une distance énorme, une dissemblance dans cette relation d'image, puisque marquée par la faute originale, l'homme n'est plus qu'une image déchue, n'est plus une image conforme, mais une image déchue de son Créateur. De ce fait, il est tiraillé sans cesse entre ce qu'il devrait ou pourrait être et ce qu'il est effectivement. Et c'est la doctrine de l'incarnation, la thèse de Dieu fait homme à travers la figure du Christ, qui en quelque sorte permet de sortir de la faute originale ou de l'impasse qu'est la faute originale. Puisque la chute avait instauré l'éloignement et la dissemblance entre l'homme et son créateur, donc entre l'image et son modèle, le devenir homme de Dieu va inverser le mouvement. En s'incarnant sous forme humaine, donc sous la forme du Christ, Dieu offre aux humains un modèle qui participe à la fois de la transcendance spirituelle et de la corporéité humaine. Le Christ, parce qu'il est à la fois spiritualité pure et corps humain, réamorce ainsi la circulation entre l'en haut et l'en bas. En descendant parmi les hommes, il permet aux hommes de s'élever de nouveau vers Dieu. Pour la question de la sécularisation dans laquelle s'inscrit la théorie de l'art dont j'ai parlé, deux aspects de cette doctrine de l'incarnation sont intéressants. D'abord, elle a donné naissance à une histoire orientée. Je vous ai parlé de l'historicisme. Eh bien, le christianisme donne déjà naissance à une histoire orientée qui est l'histoire du salut. Les figures occidentales de l'homme ont donc toujours eu tendance à se représenter comme des figures situées dans une histoire définie par une origine et surtout par une fin. Cette fin était d'abord transcendante, c'était la fin religieuse, c'était Dieu, puis c'est devenu des fins immanentes à l'histoire elle-même. L'histoire est censée être le lieu où en fait l'identité de l'homme, telle qu'il est vue dans la culture chrétienne, se réalise. Le deuxième point intéressant est que le passage du Dieu modèle, disons Dieu le Père, au Dieu miroir de Christ, annonce ou amorce à terme une humanisation du modèle divin. À partir du moment où Dieu s'incarne en figure humaine, donc prend figure humaine, cela instaure au-delà d'une relation de ressemblance une véritable parenté d'être. Si je suis fait à l'image de Dieu, et si Dieu de son côté revêt une figure humaine, comment pourrais-je ne pas prendre figure divine moi-même? Pourquoi ne deviendrais-je pas mon propre créateur en me modelant selon la figure idéale que je me donne à moi-même, en m'identifiant, à la présence divine qui est enfouie au plus profond de mon âme? Ce qu'on a appelé la sécularisation de l'anthropologie chrétienne est dû pour l'essentiel à cette intériorisation du modèle divin transcendant. C'est un mouvement qui s'amorce avec la Renaissance. À partir de ce moment, l'homme cherchera son fondement, sa consistance ou la clé de son être, non plus en dehors de lui-même, mais dans sa propre intériorité. Et il existe un autoportrait très célèbre de Dürer où il se représente en fait dans la posture du Christ triomphant. C'est un autoportrait de l'artiste, mais en Christ triomphant, qui témoigne bien de cette sécularisation et de cette intériorisation du modèle. Le modèle n'est plus situé dans un ailleurs, mais il est dans ma propre intériorité. Cette sécularisation progressive de la sphère religieuse, cette absorption de la transcendance divine, amènera l'homme à chercher désormais sa complétude dans une image idéale, dont il sera lui-même à la fois le créateur et la créature. Mais on voit bien que cette sécularisation maintient la structure anthropologique religieuse, à savoir il y a toujours une altérité entre le modèle et l'image. Simplement, le salut n'est plus situé dans l'au-delà, mais dans l'être humain lui-même et dans le temps de la communauté humaine. Du même coup, l'homme sera désormais toujours en retard sur lui-même. Il sera toujours défaillant par rapport à son propre être. Ceci signifie que cette sécularisation de l'anthropologie chrétienne est constitutivement en crise. Elle divise toujours l'homme contre lui-même. Elle le clive en quelque sorte l'intérieur. Tant que le modèle était transcendant, Dieu, l'exigence de plénitude était elle-même posée comme relevant de l'autre monde. C'était un ailleurs et non pas de l'ici-bas. Et en ce sens, l'histoire du salut, bien que c'était une histoire avec une fin finaliste, n'impliquait pas de vision historiciste de la vie ici-bas. Mais avec la sécularisation du modèle, l'homme est à la fois donc le modèle et l'image défaillante, et c'est dans le temps de l'ici-bas qu'il est appelé à dépasser cette contradiction. Du même coup, le temps de l'histoire se confond avec le temps de l'eschatologie, donc de l'histoire des fins des temps. Et l'être humain est sommé à projeter son être et à se projeter lui-même en avant de lui-même et de vivre son propre présent sous la loi de ce qu'il est appelé à devenir. Et c'est là que se trouvent réunies les prémices de cet historicisme utopiste qui caractérise tant de pensées du XIXe et du XXe siècle et entre autres la conception moderne de l'art. Cette sécularisation reconduit aussi la figure du médiateur qui réalise le contact entre le modèle et l'image déchue. En effet, bien que le modèle soit désormais non plus posé ailleurs mais à l'intérieur de moi-même, l'homme réel, empirique que je suis, l'être biologique et social que je suis, est incapable dans sa contingence de s'y élever tout seul. Il a besoin de figures médiatrices, de guides, d'individus supérieurs. Cette figure du médiateur a été agissante notamment dans le domaine de la sphère de la philosophie économique, bien entendu dans celle du politique, dans celle de l'éducation, le rôle de l'éducateur c'est celui d'être un intermédiaire, dans celle de la science et bien sûr dans celle de l'art. On a souvent souligné le lien entre l'art moderne et les utopies politiques. De même, à travers le romantisme, on conçoit bien le lien entre l'idée d'une science absolue, au sens d'une philosophie absolue, et celle de l'art moderne. Les liens de l'art moderne avec l'utopie éducative ont été moins étudiés, alors que la figure même de l'artiste moderne, ou plutôt ce qu'on pose comme étant la dynamique de son devenir soi-même, rejoint l'utopie éducative de l'homme qui se forme lui-même et étant du même coup apte à former les autres, qui eux sont incapables de se former tout seuls. Les figures de l'avant-garde politique, de l'éducateur, du savant et de l'artiste peuvent d'ailleurs se combiner et se confondre en des combinaisons qui, dans certains cas, font froid dans le dos. Ainsi, le sinistre Goebbels écrivait-il en 1930, je le cite, que l'homme d'État aussi est un artiste. Et la relation entre les masses et le Führer n'est pas davantage un problème que ne l'est celle entre le peintre et ses couleurs. Et il précise que de même que le peintre use ses pigments, les génies politiques usent, verbrauchen, le matériau humain. Donc verbrauchen, ça veut dire aussi consommer. Donc c'est à la lumière de cette sécularisation constitutivement en crise de l'anthropologie chrétienne qu'on peut comprendre la conception moderne de l'art conçue comme une figure de l'humain. Les traits récurrents qui caractérisent la vision qui se cristallise autour de cette figure se regroupent autour de ce nœud anthropologique commun qui est celui de l'homme pris dans une relation de déchéance par rapport à un modèle idéal qui est devenu lui-même. Pour en prendre un seul exemple, la conception de la souveraineté de l'artiste réactive des concepts qui définissaient la figure du Dieu créateur dans la théologie. Le moi de l'artiste est conçu sur le modèle du moi divin. Parfois, cette identification est explicite. Paul Klee, par exemple, en 1911, note dans son journal comment il est passé d'un moi égocentrique à un moi divin. Et dans son credo du créateur de 1920, il affirme qu'à travers l'acte créatif, l'artiste peut, je le cite, « pour un moment se croire Dieu ». Et l'art lui-même est défini, toujours par Paul Klee, comme une création quasi divine. L'artiste crée des œuvres qui sont à l'image de l'œuvre de Dieu. Aussi, lorsqu'il cherche à rendre compte du fait artistique, se réfère-t-il à la Genèse, donc à la Bible, en opérant un déplacement significatif de l'œuvre créée vers la création comme processus. Je le cite, « Le récit biblique de la Genèse offre une très bonne parabole du mouvement, la création recevant ainsi une dimension historique. L'œuvre d'art également est au premier chef Genèse. On ne la saisit jamais simplement comme produit. En effet, je cite encore, Dieu non plus ne se soucia pas tellement des stades fortuitement actuels. Il faut donc découvrir, sous l'enveloppe de l'œuvre, la création qui, je cite, vit en tant que Genèse sous la surface visible. Bref, il faut remonter du modèle à la matrice, ce qui a donné naissance au modèle. Les exemples que j'ai cités tout au long de cet exposé privilégient, vous l'aurez constaté, les expressions de la figure de l'art moderne dans lesquelles le modèle de l'anthropologie chrétienne est présent de manière explicite. Il faudrait essayer de montrer en un second moment comment les figures politiques ou encore formalistes ou expressivistes de l'art moderne recyclent en fait le même modèle. Mais cela dépasserait de loin le cadre de ce petit exposé. Je voudrais finir par deux ou trois questions que je me pose en fait à moi-même et auxquelles je n'ai pas de réponse. La première, c'est qu'en est-il aujourd'hui de cette figure-là de l'art, donc cette vision très exaltée de l'art? Si on accepte les hypothèses que j'ai essayé de développer, il n'y a aucune raison pour que les limites de la modernité, donc si on conçoit la modernité comme sécularisation constitutivement en crise de l'anthropologie chrétienne, donc que ces limites soient les mêmes dans tous les champs qu'elle a investis. J'ai parlé qu'en passant du champ politique, mais c'est évidemment dans ce champ-là que cette sécularisation de l'anthropologie chrétienne s'est le plus investie. Or, dans ce champ-là, on peut penser qu'elle est morte avec la Shoah et l'effondrement du communisme. Mais elle est toujours active dans le champ de l'éducation, qui à bien des égards a pris la place de la politique comme lieu d'utopie sociale. L'idée que c'est à travers l'éducation que l'humanité peut accéder à la plénitude est une idée qui est encore largement, je crois, répandue et qui correspond peut-être finalement à nos croyances les plus spontanées. Dans le champ artistique, un certain nombre d'indices semble indiquer que nous sommes en train d'en sortir, puisque, du moins dans les pratiques artistiques contemporaines, le rapport entre l'artiste et son œuvre et le rapport entre l'artiste et les récepteurs, son public, sont fort différents de ce qu'il pouvait être à la grande époque héroïque du modernisme, où l'artiste se concevait comme un héros opposé à la foule et comme étant en avance sur cette foule et comme devant la mener quelque part. Ceci dit, l'analyse, par exemple, par Catherine Grenier de l'importance explicite, parfois, et souvent implicite, de la thématique christique dans l'art contemporain, pointerait elle plutôt dans la direction d'une permanence de la variante contemporaine, qui se singulariserait de l'art moderne par le fait qu'au lieu de mettre en avant le corps de la gloire, le corps du Christ héros, le Christ Dieu de la résurrection, elle donne la préférence au corps de souffrance. Donc le Christ homme de passion. Je laisserai cette question en fait ouverte parce qu'il se pourrait que nous n'avons pas le recul historique nécessaire pour pouvoir envisager d'y répondre de manière sensée. La deuxième question, c'est en fait tout un ensemble de questions que je me posais pas à l'époque où je travaillais sur ces choses-là, parce que j'étais jeune et que j'avais des idées bien arrêtées surtout, que je me pose aujourd'hui et... Là aussi, je n'ai pas de véritable réponse, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui pourront apporter des éléments. C'est quelle a été la fonction, ou quelles ont été plutôt les fonctions de cette figure? À quoi est-ce qu'elle a servi? Bon, ce qui est certain, c'est qu'elle a été un formidable catalyseur pour le développement des pratiques artistiques. Parce que l'époque de cette théorie est aussi une époque d'une créativité absolument inouïe dans tous les domaines artistiques. Donc, elle a en tout cas servi à cela. Elle a sans doute aussi aidé pendant un siècle et demi ou deux siècles la société occidentale, ou du moins les élites de cette société, vous mettez tout ce que vous voulez comme guillemets autour d'élite, enfin donc une petite frange de cette société, à prendre le chemin de cette conception séculaire de l'être et de l'humanité. Donc on peut concevoir que c'était une manière d'accompagner ce mouvement très difficile qui était la sortie d'une conception théologique de la réalité. Conception théologique ne veut pas dire conception religieuse, mais ça veut dire une conception dans laquelle il y a des doctrines qui nous assurent de la vérité concernant notre fondement et l'existence ou non d'une réalité transcendantale. Donc, qui doit être distinguée de la religion, qui n'est pas nécessairement doctrinaire ou théologique. Donc, peut-être que l'art, cette théorie de l'art, a aidé une partie des élites européennes et plus largement occidentales à entreprendre ce mouvement très difficile. On peut aussi penser, c'est une autre option qui est en fait l'option retournée par rapport à la deuxième. On peut penser que peut-être qu'elle a eu la fonction, j'ai parlé de compensation ou de consolation. Auquel cas elle serait une des figures parmi d'autres de quelque chose qu'on trouve dans toutes les sociétés sous des formes différentes et qui correspond à ce que Nietzsche avait dit de l'art, à savoir que nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité. On peut concevoir que toute société a besoin de domaines de cette sorte pour ne pas périr de la vérité à partir du moment où les vérités auxquelles elle adhère par ailleurs sont des vérités qui ne sont pas nécessairement des vérités qui sont conformes aux désirs et aux espoirs de cette société. Et il se pourrait tout simplement que l'art, vu de cette façon-là, ait rempli toutes ses fonctions et bien d'autres fonctions encore, selon les moments de cette histoire de deux siècles, mais aussi sans doute selon les milieux dans lesquels elle était entretenue, et même selon les individus. Mais ce qui est sûr, et je finirai sur cette remarque-là, c'est une manière de voir l'art et de lui donner de l'importance dans la vie sociale des humains, qui est inconnue partout ailleurs, qui était inconnue en Occident, et donc qui est un phénomène tout à fait remarquable, mais qui ne nous apparaît pas comme remarquable, je crois, parce que nous y sommes encore un peu partie prenante. Nous en sommes encore un peu partie prenante. Et le simple fait de pouvoir en parler en prenant du recul historique est peut-être finalement le signe que nous sommes en train d'en sortir. Voilà. Merci beaucoup.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
dans ce capital, il ne dit pas d'un capitalisme.
L'Agora des savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010. À la découverte de nos origines. Une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.